sirènes gueulent et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Pas de son commencé à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pions. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent, sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. On va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour.
Bonsoir à toutes, vous êtes bien à l'écoute de L'Envolée, comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30. Et c'est une émission un peu spéciale qu'on a aujourd'hui à faire, qu'on enregistre en fait quelques heures avant le direct. Voilà, parce que on n'avait pas prévu à la base de faire l'émission, et sauf que y a eu une info qui fait que ça nous semblait important de prendre le direct pour pouvoir parler. Est-ce que tout le monde nous entend? Désolé, ça a peut-être été un peu le bordel et tout ça parce que c'est un peu le rush technique, mais donc tout le monde nous entend, c'est cool. Louise, peut-être si tu veux présenter un peu tout le monde autour de la table.
Ouais, puisqu'on est assez nombreux, donc il y a Maëlle.
Salut.
Il y a Lou.
Salut.
Il y a Léo.
Salut.
Et il y a Fédé.
Salut.
Mais aussi Jade.
Salut.
Serge au bocal.
Salut tout le monde.
Et Louise qui vous salue.
Ouais, donc peut-être si vous voulez un peu nous raconter, enfin voilà, l'urgence là, de cette émission.
Ouais, du coup, juste pour nous présenter rapidement, on a un groupe de personnes qui s'organisent en soutien et en lien avec les personnes enfermées dans les centres de rétention administrative. Donc c'est un peu des prisons dans lesquelles les personnes qui n'ont pas de papier peuvent être enfermées jusqu'à 90 jours. Contrairement aux prisons classiques, il y a des cabines téléphoniques qui font qu'un peu n'importe qui peut appeler depuis l'extérieur. Donc nous, on essaie un peu d'entretenir des liens avec l'intérieur pour un peu savoir ce qui se passe, sortir des témoignages sur notre blog, donc il y a le blog à Balekra et sur le Twitter. On est déjà venu plusieurs fois ici pour parler un peu, et des gens ont déjà pu prendre un peu l'antenne en direct pour parler ce qui se passe dans les CRA. Et donc là, on a eu un peu une information un peu urgente aujourd'hui pour laquelle on voulait pouvoir parler en direct. Je sais pas si Léo, tu veux un peu raconter. Ah, j'ai cru que c'était toi qui parlais de la suite.
Pour le dire rapidement, du coup, ce matin, il y a un des retenus avec lequel on est en contact qui, au téléphone, nous a appris.
Il appelle.
Justement, on a.
On a un appel.
Non, pas encore, mais par contre, parle bien dans le micro.
Ok. Du coup, je reprends. Un des retenus avec lequel on est en contact qui nous a appris au téléphone que dans la nuit, un retenu du CRA.
Du CRA 3.
Du CRA 3 était décédé. Et donc du coup depuis ce matin on est rentré en contact avec d'autres retenus de ce bâtiment là pour essayer d'apprendre un peu plus sur les circonstances du coup ce qui s'est passé pour l'instant de ce qu'on a appris c'est que donc, c'est une personne qui avait des problèmes de santé un gars de 27 ans qui devait être emmené à l'hôpital depuis une semaine il s'est réveillé dans la nuit et se sentait mal il a prévenu un de ses co-retenus qu'il n'arrivait plus à respirer. À partir de là, des retenus ont commencé à vouloir appeler les flics pour que les secours soient prévenus. Ils se sont mis à presser les boutons d'urgence, taper sur les grilles, à crier. Malgré ça, les flics ont mis au moins 30 minutes avant de réagir. Ces co-retenus ont commencé à faire un massage cardiaque à tour de rôle. Et en fait, quand les pompiers sont arrivés, il était déjà trop tard, le retenu était décédé.
Ouais, et juste, on disait CRA 3 parce que du coup, c'est au centre de rétention du Ménil-Amelot. Il y a deux CRA, il y a le CRA 2 et le CRA 3. Donc il y a 4 CRA en Ile-de-France. Et ceux de Vincennes et Ménil-Amelot, c'est les deux plus gros avec lesquels on est le plus souvent en contact. Et dans lesquels aussi se passent le plus souvent des merdes. On était déjà venu, je pense, parler du fait qu'il y avait un retenu il y a un an et demi qui est mort tabassé par les flics à Vincennes. Et donc là, a priori, c'est pas tellement une question de violence directe de flics sur cette personne-là, mais c'est plutôt un problème de genre, il y a tout le temps aussi des gens, on sait, qui sont à l'intérieur, qui ont des soucis de santé, qui demandent à avoir des médecins, et c'est la galère. Là, ce que nous ont dit certaines personnes, c'est que ce mec-là, il avait des rendez-vous à l'hôpital, et que pendant la semaine, il aurait plusieurs fois dû être emmené à l'hôpital, mais ils l'ont pas emmené. Et donc que là ça aboutit à cette situation d'urgence et en fait la nuit les gens ils sont enfermés dans les bâtiments et il y a en théorie un bouton d'urgence qui fait qu'ils peuvent appeler pour que les flics viennent mais ce qu'ils disent bien c'est que quand il y a des problèmes, quand il y a des révoltes, des trucs comme ça, les flics ils arrivent tout de suite mais quand c'est des soucis de santé ils traînent toujours un max quoi, et là c'est ce qui s'est passé.
Peut-être ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que cette mort-là, elle arrive dans un contexte où il y a eu plusieurs tentatives de suicide ces derniers temps au Ménil. Et notamment, du coup, une personne, une première TS dont la personne a été sauvée par ses co-retenus, et une autre personne qui a avalé des lames de rasoir et qui a ensuite été emmenée à l'hôpital, qui a été opérée, qui a été ensuite ramenée au CRA. Et du coup c'est aussi dans ce contexte-là qui témoigne un peu de l'état de psychique des gens en ce moment à l'intérieur quoi.
Oui, et aussi une des personnes qui a avalé les lames de rasoir les derniers jours apparemment a été mise à l'isolement et a été enfermée à l'isolement pendant plusieurs jours. Et dans tous les cas, toutes les infos qu'on a, genre juste pour contextualiser que c'est juste une partie de tout ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'en vrai, on a une toute petite partie des infos et en soi, tous les une minute, il se passe des trucs très chauds entre violences policières, problèmes psy, il y a tous les quelques minutes dans l'écran des trucs qui se passent qui sont très très compliqués, du coup genre nous on peut relayer une toute petite partie mais voilà. Et là on attend du coup un appel, je pense que c'est peut-être arrivé des quelqu'un du coup de l'intérieur qui voudrait témoigner sur ce qui s'est passé cette nuit. Du coup, ça va arriver bientôt. Voilà.
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Ouais.
Oui, on t'entend.
Ouais, bonjour, madame.
Vous nous entendez bien, là ?
on vous entend.
Ok, super.
Très bien.
Là, vous êtes à la radio. Là, on est plusieurs autour de la table. Du coup, on vient un petit peu de raconter ce que vous nous avez dit rapidement.
Bonjour les téléspectateurs. Bonjour à tous qui sont en train de nous écouter. Ben, on vous appelle pour passer notre message. Monsieur, nous sommes des détenus. On est là au centre de rétention de 77-Ménil-Amelot-3.
Est-ce que tu peux essayer de parler au maximum dans le téléphone? C'est juste que c'est toujours...
Ah, vous entendez mal?
Ouais, là, comme ça, on t'entend mieux.
Ouais, il faut parler bien fort.
Nous sommes des détenus. On est au centre de rétention de Ménil-Amelot.
Trop bien, merci.
Numéro 3. Eh ben, on a subi un mort aujourd'hui le matin. Et avant-hier aussi, il y avait une tentative de suicide. Sinon, on a sauvé le mec. Là, on se plaint de plusieurs choses ici au centre. D'accord?
Ouais, on t'entend bien.
Ouais. Eh ben, nous, on n'est pas contents. On veut que la presse va passer mon message alors que les policiers décident de la frontière et cachent toujours la vérité. Même qu'il y a des députés qui vont venir et les ramènent toujours visiter les banlieues. Alors qu'ils laissent les autres.
Mmh.
Et nous, aujourd'hui, on a fait grève de faim à midi concernant le mec qui est mort, paix à son âme. Et il y a plusieurs choses qu'on peut vous dire, qu'il y a une anarchie totale dans le centre. Rien qui passe comme prévu, comme les autres. Manque de sécurité, alors que nous enferment dans les bâtiments et qu'on fait appel sur l'interphone et ça ne répond pas. Et ben c'est à cause de ça que le monsieur est mort hier.
Oui, donc c'est ça ce qui s'est passé cette nuit, c'est que vous avez essayé d'appeler sur le bouton.
Première intervention. C'est ça.
Ouais. Vous pouvez peut-être raconter un peu plus dans les détails ce qui s'est passé cette nuit.
Ben cette nuit hier, moi je suis dans le bâtiment 4 et là ils n'ont pas laissé le co-détenu, celui qui partage avec lui la chambre, ils n'ont pas laissé venir ici. Dans mon bâtiment, sinon j'allais vous le passer en direct, lui aussi. Ben, il y avait 3 jours, il y avait un haïtien, et nous on a ramené vol. Donc, il a fait une corde. Et vous laissez. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui l'a vu à la dernière minute. On est tous sortis, on l'a soulevé. On a commencé à taper dans la grille, et moi, elle était déjà fermée. Et là, déjà, ils ont fait 40 minutes pour venir. Et tant qu'il est venu le policier, c'est moi qui avais l'attention et le réflexe de lui demander son couteau suisse qu'il a sur lui pour détacher la corde. Et c'était pile poil pour le sauver, quoi.
Mm-hmm.
Ils l'ont ramené. Et celui d'hier, il y avait aussi des cris partout à 2h du matin. Ils ont mis 45 minutes pour venir de la direction jusqu'au bâtiment. Et quand ils sont arrivés, ils étaient en train de regarder le mec. Il n'y a même pas un agent qui sait faire les premiers soins ou ils l'ont laissé tomber par terre en attendant les pompiers pour qu'elle arrive. Ils ont mis aussi 1 heure pour venir. Et bien, le monsieur ne va pas attendre. Il est passé direct. Et même la dernière fois, un diabétique. Là, je vais vous le passer. Il s'appelle Hicham, c'est un Tunisien. Il n'y a que lui qui est diabétique dans le centre. Ils ont oublié de lui donner son insuline le soir. L'infirmerie, elle est fermée, ils sont partis. Ils ont oublié de lui donner son insuline. À 5 heures du matin, il ne sentait pas bien. On a appelé les pompiers aussi. Ils ont mené 1 heure pour venir ici.
Ok. Oui, du coup, juste dans les derniers jours, pour résumer ce que vous avez dit, il y a eu à la fois une tentative de suicide et c'est vous que vous avez dû sauver la personne, couper la corde, tout ça, et vous occuper.
Des gens qui sont venus, ils étaient en train de regarder. Oui. C'est vrai, c'est un choc. Tu vas voir quelqu'un qui a mis une corde. C'est horrible. C'est un choc. En plus, il y a des gens qui sont mineurs déjà avec nous ici. Ils étaient choqués. Mais tellement moi, j'ai été un peu courageux, quoi. Je ne vais pas jouer le héros, mais alhamdoulilah qu'on l'a sauvé.
Ouais. Oui, oui, c'est sûr. Et aussi, après, la nuit dernière, aussi, encore une fois, quand les mecs est tombé par terre.
C'est très, très bien. On l'a sauvé, ils l'ont ramené là-bas. Ils ont ramené les pompiers et tout, mais celui d'hier aussi, c'est comme ça. Nous, on est contre de fermer les bâtiments, alors qu'il y a des caméras partout. Ici, dans la petite cour, devant la porte d'entrée des chambres, il y a des caméras. Dans les couloirs où il y a la douche, il y a des caméras. Après, le mec qui travaille, il est payé pour voir les caméras. Je pense qu'il fait autre chose le soir. Il n'est pas branché. Même le mec de Meradon aussi, alors qu'ils ont des talkie-walkie, ils ont tout pour... Ils nous ont mis un interphone ici, c'est pour appel d'urgence, SOS, mais dès t'appuient et te répondent jamais.
Ouais. Oui, parce que pour
alors que c'est une alerte, c'est ça la première alerte qu'on peut indiquer. Après, on commence à taper dans les grilles, on commence à crier et tout, on fait un grand bruit pour qu'ils viennent.
Oui.
Mais sinon, les simples cris ne viennent jamais parce qu'ils disent toujours qu'on est en train de jouer avec eux ou il n'y a pas grand-chose. Ils ne veulent même pas se déplacer alors qu'ils sont payés pour faire ça.
Oui, parce que du coup, souvent, ils regardent les caméras pour éviter les évasions, mais pas tant pour venir soigner les gens quand il y a besoin.
Voilà, voilà. Quand il y a une embrouille, ils viennent direct avec leurs gazeuses, ils jouent les flics de dehors, alors qu'ils sont ici que des portiers et tout. Ils ne te répondent jamais, tu demandes un service, rien. T'imagines, le matin, ils te donnent un sucre pour ton café, pas plus.
Oui. Mais du coup, pour expliquer aux personnes qui ne savent pas comment c'est, genre, en gros, genre, dans le CRA, il y a une cour qui est partagée. Et après, il y a plusieurs. Et après, chaque bâtiment a une petite cour.
La prison, elle est mieux que le CRA, madame. Moi, j'ai été déjà en prison, c'est mieux qu'ici. Je vous jure. En prison, en haute détention. J'étais à Fleury-Mérogis. Là, le CRA, c'est la première fois qu'il me ramène, moi. Après, si tu mets les pieds ici dans le CRA, on va dire que tu vas compter tes derniers jours de ta vie. Soit tu vas choper une maladie dangereuse. Soit il t'arrive quelque chose, ils vont te tabasser alors qu'il n'y a pas de sécurité, tu vas perdre mémoire ou un truc comme ça. Sinon, la dernière chance, 90 jours, c'est l'expulsion. Donc si tu rentres au train, c'est comme si tu rentrais dans un cercueil.
Ouais.
Alors qu'on ne demande que des petits trucs pour tout le monde qui va s'en sortir. On est là juste pour un OQTF, madame, c'est pas pour autre chose. Il y a des gens qui sont, ils ont des masters, il y a des gens qui sont étudiants, sauf qu'on n'a pas les papiers, c'est tout. C'est pour ça qu'on est là.
Oui, en tout cas, nous, on pense que personne ne devrait être enfermé dans tous les cas. Mais oui, oui. Mais non, mais du coup, j'étais en train de juste t'expliquer, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne savent pas forcément comment c'est un CRA, comment ça fonctionne à l'intérieur et tout. Mais du coup, juste pour expliquer, genre, les gens sont avant une heure.
Oui, vous aurez une petite carte. Là, vous êtes là, tu vas partager une chambre, je ne sais pas avec qui. Là, tu as un bâtiment, entre deux bâtiments, le 3 et le 4, c'est une cour. Il y a une table de ping-pong, c'est tout. Tu as le réfectoire le matin, et tu as le manger à midi, et tu as le manger à 18h. Après 20h30, ils vont venir, ils vont nous enfermer dans nos chambres, et il y a une petite cour, ils vont fermer le bâtiment.
Oui, et du coup, à ce moment-là...
Tu ne vas plus voir quelqu'un jusqu'au matin. S'il arrive quelque chose dans la nuit, c'est mort.
Oui, c'est ça.
Ouais, il n'y a pas de mesure de sécurité, il n'y a rien. On est dans des conditions merdiques, comme on dit. Il n'y a pas de chauffage dans les chambres, alors qu'on est dans le moment estival, comme on dit là. Là, on est au mois de novembre. Il n'y a pas de l'eau chaude dans les douches.
Ouais. Et aussi, si j'ai bien compris, la personne qui est morte, ça faisait une semaine qu'il aurait dû passer à l'hôpital parce que déjà, il n'était pas bien. Et il n'a pas pu voir de médecin, en tout cas en dehors du CRA. Et
vous demandez à un médecin, on n'a jamais le médecin. Ils vont dire 14h. Après, un autre, il va dire 14h30. Après, l'autre, il va dire, ah, l'infirmerie, ça ouvre à 15h. Après, tu viens à 15h, c'est un autre agent, si tu trouves la porte, il ne va pas te laisser passer. Il va te dire, non, tu vas pas à l'infirmerie, tu veux acheter un café. Il n'y a pas le travail strict ici, soit infirmerie, soit les civils, soit... Il n'y a que le greffe qui travaille très très bien. Alors, quand c'est un tribunal où ils te ramènent le consul, ils sont là, ils vont venir te chercher dans ta chambre, ils vont te faire sortir, ils vont te parler bien. Quand il y a un député ou il y a des journalistes qui rentrent, ils sont tous là, les brigadiers, alors qu'à la base, je ne vois jamais un brigadier qui tourne ici le matin, où il vient voir les gens. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es là? Ils ne sont pas sympas, ils sont méchants, ouais. Tout pareil.
Mais du coup, depuis que ça s'est passé, ça se passe comment à l'intérieur? Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous avez fait une grève de la faim.
Oui, oui, là, on fait grève de la faim. Bien sûr, madame, on ne va pas manger. On n'a pas besoin que de manger, nous. On a besoin de la sécurité, avant tout. Moi, je me sens à l'aise et libre. Je ne peux pas manger, normal. Mais moi, je suis en sécurité. Là, tu me donnes à manger. Après, s'il m'arrive quelque chose... De la direction jusqu'à ici, on a 20 mètres. Ils vont venir pendant une heure. On dirait qu'on les fait chier. Alors qu'ils sont là pour travailler. Ils sont là pour intervenir.
Et les flics, ils vous ont parlé de ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'ils ont dit?
Mais les les flics, ils sont venus, qu'est-ce qui s'est arrivé? Vite fait, comme ça, c'est comme si c'est un pigeon qui est mort. Je vous jure, c'est comme si qu'un pigeon, ils l'ont pris, c'est bon, ils ont fait leur travail, ils ont appelé les pompiers, eux, c'est bon, ils vont s'en sortir. Et c'est sûr, les mecs, ils vont dire qu'il a fait un AVC, ou il a fait un truc comme ça pour camoufler l'affaire. Alors qu'ils peuvent faire l'autopsie, ils vont voir que c'était pas bien, le monsieur n'était pas bien, comment le médecin lui a accordé qu'il va retourner dans sa chambre.
Mais ils ont déjà sorti un article.
Ils prennent des médicaments et ils prennent des médicaments un peu durs. Ce n'est pas comme des traitements basiques. Ils lui prennent des Cibitex, madame. Mais... Les Cibitex, il a des milligrammes.
Et du côté du médical, sur le fait de pas avoir filé les médicaments.
Je vous entends mal, monsieur.
Ça marche mal, là ?
Ouais,
okay.
Je l'entends très très mal.
Ah merde, comment le fait qu'ils aient pas... Merde, le médicament contre le diabète, là, le fait qu'ils ne l'aient pas filé, qu'est-ce qu'ils ont dit, le médical, là-dessus ?
Ah ben, ils n'ont rien dit le matin. Ils n'ont rien dit, Michel. Tiens.
Ok.
Allô ?
Ouais.
Oui, salut.
Salut,
ça va ?
Ça va et toi ?
Oui, ça va, merci.
Ouais, tu voulais embrayer sur un truc ou...
Non, en fait, c'est moi le diabétique.
Ah, ok, c'était toi, pardon, j'avais pas compris. Ok, excuse, c'était pas clair dans le truc et tout ça. Et toi, ils oublient de te filer ton insuline ?
Oui, non, là, en fait, la dernière fois, j'étais en visite, j'ai sorti de la visite 17h05. Et l'infirmerie, il est fermé 17h pile. Et c'est marqué dans la porte de l'infirmerie, ça se ferme à 18h en fait. Mmh. Après, elle m'a dit, l'infirmière, elle est partie. J'ai resté sans insuline toute la nuit en fait. J'ai galéré, j'ai resté jusqu'à presque 3h du matin. J'appelle une personne, elle ne répond même pas. Après, mon collègue, elle m'a passé son téléphone, j'appelle 15 de la famille. Après, son venu, elle m'a fait mon insuline et tout ça. Franchement, j'ai passé 5 nuits. Toute la nuit, j'ai vomi et j'ai, voilà, malaise quoi.
Mais c'est des malades de pas filer d'insuline. Ok.
Ouais.
Tout ça parce que tu avais soi-disant 5 minutes de retard, quoi.
Oui, voilà. Exactement. 5 minutes de retard. Donc, en fait, c'est marqué 18h. Ça sert 18h. Moi, j'ai sorti la visite de 17h05. Oui. Et la visite, et l'infirmerie, c'est juste en face, la porte. C'est-à-dire, même pas un mètre. Vous voyez La même couloir, en fait.
Et puis ils étaient déjà partis.
Ouais. Okay. Ouais. Franchement, monsieur, j'étais. Demandé même le famille, tout ça. Ils ont trouvé 5 trics glycémie et 3,8 acétone. Il m'a dit que ça, c'est très très dangereux en fait. Voilà.
Et ce que tu avais dit en plus par rapport à ça, il me semble, c'est que toi, tu as réussi à appeler les pompiers et une ambulance par toi-même quand tu n'as pas eu ton insuline,
oui.
C'est ça ?
À 5h du matin, oui.
Ouais.
J'ai galéré toute la nuit, j'appelle l'ambulance. Parce que les policiers m'ont dit, s'il arrive quelque chose, appelle-nous sur l'interphone. J'ai appelé depuis 1h du matin jusqu'à 5h.
Comme ça s'est passé cette nuit, quoi.
Oui. Après, moi-même, mon collègue il m'a passé son téléphone, j'ai appelé 15h.
Oui, ça, on sait qu'à l'intérieur, ça arrive souvent quand même qu'il y ait des problèmes et que quand les flics répondent pas, les gens essaient d'appeler les pompiers et des fois aussi les pompiers ils bloquent parce qu'ils disent ah bah non, bah, c'est au centre de rétention d'appeler, c'est pas vous qui pouvez appeler de l'intérieur. Et ça aussi, on voit bien que en fait, ça empêche qu'il y ait des prises en charge même dans des situations urgentes comme il y a eu cette nuit, quoi.
Oui, voilà, exactement. En même temps, j'ai demandé le médecin pour changer l'insuline parce que ça ne marchera pas avec moi, c'est là. Toujours, je suis hypoglycémie. Il n'y a rien, il n'y a pas de réponse en fait, c'est qui la fermière. Vous voyez ?
Et aussi le problème que souvent quand il se passe des choses à l'intérieur comme, comme aujourd'hui, comme il y a eu une personne qui est morte au Crat Vincennes l'année dernière qui avait été tabassée pendant plusieurs jours par la police, à chaque fois les infos que la police essaie, soit ils ne sortent pas des infos, soit ils essayent de ne pas dire ne pas faire sortir la vérité et pas faire sortir la parole des personnes détenues qui sont témoins.
Allô, allô, madame, vous pouvez répéter, j'ai pas entendu.
Oui, que je disais que souvent, quand il se passe des choses graves à l'intérieur des CRA, comme aujourd'hui, comme ce qui s'est passé cette nuit, et aussi ce qui s'est passé l'année dernière, il y a une personne qui est morte au CRA de Vincennes, qui a été tabassée pendant plusieurs jours par la police et après est morte. Une autre personne qui n'avait pas reçu des soins, qui est morte aussi au CRA de Vincennes l'année dernière. Aujourd'hui, il y a une autre personne qui est morte à Ménil. Et à chaque fois, la police essaye de soit ne pas faire sortir l'information, soit de faire sortir de fausses informations pour ne pas prendre la responsabilité des morts qu'il y a. Parce qu'effectivement, souvent, c'est des violences policières, soit de manque de soins et des prises en charge par les personnels en CRA. Du coup, à la fois la police et les personnels médicaux. Et les associations aussi qui sont à l'intérieur. Du coup, de fait, il y a une responsabilité qui est celle du CRA, de l'enfermement, de la police et de tous les gens qui participent à ça, qui travaillent dedans. Et à chaque fois, ils essayent de ne pas sortir les vraies informations, de ne pas faire parler les personnes retenues, qui sont les vrais témoins de ce qui se passe. Et du coup, c'est important que vous êtes là pour parler de ça, en tout cas pour faire sortir la vérité sur ce qui se passe là-dedans.
Oui, oui, on est là, on vous dit que la vérité, madame.
Ah oui, mais ça n'en doute pas.
On va vous dire que la vérité de ce qui souffre tous les jours.
Oui.
Que ça, la violence policière, les propos racistes, manque de sécurité, manque des conditions de vivre. Il n'y a pas d'eau chaude dans la salle de bain. Il n'y a pas de chauffage dans les chambres. En plus, on demande que être en sécurité, c'est tout. Nous, c'est la loi française qui nous a ramenés ici. On est bien d'accord. On est en situation irrégulière. OK. Mais vous ne me mettez pas dans un CRA pour que je vais mourir ou faire une corde.
Ouais. Bah, être libre aussi.
Il y a la misère. Il y a l'ONU, il y a tout. Ici, on est en Europe, non? Nous, on a quitté nos bleds pour venir ici, pour s'améliorer, pour bien soigner. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens... Mais comme ça, on ne peut pas continuer à...
Après, par rapport à tout ça, je pense, de toute façon, notre position en général, c'est que personne ne devrait être enfermé ni dans les centres de rétention ni ailleurs, et que bah, la solution pour pas qu'il y ait des personnes sans papier, c'est juste de donner des papiers à tout le monde, quoi, globalement, et voilà quoi.
Eh ben voilà, nous on est là. Nous on est là, on est devant, ils ont tous nos empreintes, les vrais noms, les photocopies de passeport, ils savent tout sur nous, mais c'est juste qu'ils nous bloquent ici. Alors que pour trouver des autres solutions, eux, ils te ramènent ici pour péter un plomb. Si tu rentres avec ton cerveau, tu sors d'ici le claqué parce que tu vas voir des choses que tu n'as jamais vécues dans ta vie. Après, les personnes, c'est différent. Moi-même, j'ai un loyer. Moi, aujourd'hui, je suis dans le CRA et j'ai arrivé à payer mon loyer dehors. Il est de 900 balles, monsieur. Alors que je suis bloqué ici. Alors avant, j'étais en contrat CDI, je suis dans la restauration, j'étais en train de cumuler mes bulletins de salaire. Concernant mes années de présence ici en France. Bon.
Oui, ça te met juste encore plus dans la merde quand tu sors après, t'as plein de trucs à gérer. Quoi.
C'est ça que j'ai dit au juge. Même le juge, il ne m'a même pas laissé parler, alors que j'ai fait un avocat avec argent. C'est une avocate qui me défend toujours.
Oui, je pense qu'il faut rappeler.
Elle est venue pour mon audience. Dès que je suis rentré, bonjour monsieur, vous appelez comment? Ok, moi je vous mets 26 jours, direct. J'avais même pas la pression de parler, elle m'a pas demandé, elle m'a rien. Elle a lu mon dossier, elle m'a dit c'est 26 jours, va au CRA.
Ouais. Je pense que c'est important de rappeler justement le rôle de la justice là-dedans, parce qu'effectivement, les gens qui sont à l'intérieur s'y font. Genre, il y a les tribunaux administratifs, il y a les juges des libertés de la détention qui font que renouveler les gens jusqu'à 90 jours. Et même s'ils n'arrivent pas à expulser, ils essayent d'enfermer les gens le plus longtemps possible. Et voilà. Du coup, sans
ils
même...
travailler, ils vont vivre la misère ici, alors qu'elles pouvaient me relâcher.
Oui, ils jugent en deux minutes chaque fois et ils renouvellent...
Sur mon nom. J'ai mon propre hébergement. Je n'ai pas un hébergement de chez quelqu'un, c'est moi. J'ai l'adresse de chez moi. Je paye un loyer, j'avais un CDI, je travaille, je cotise, je paye mes impôts.
Oui, oui.
Après, tu es d'accord que si tous ces trucs-là, en fait... C'est cool que tu étais dans cette situation et tout ça, mais en fait, c'est pas parce que les gens, ils avaient pas toutes ces choses-là, tu vois. C'est pas parce que tu habites chez ton poteau.
Tout, je suis suis toujours au train, monsieur.
Ouais, non, mais ça moi, je comprends la frustration de ouf que tu peux avoir, mais ça serait tout aussi...
Par les préfets.
Ça serait tout aussi injuste.
Dire, monsieur, moi, je vais te libérer. Ils vont te dire, OK, après la délibération, tu vas écouter mais, ton truc. Là,
en
tu
fait...
vas aller dans la cellule, tu reviens, ils vont te dire 26 jours. Dans 26 mais... jours, tu remontes, ils vont te dire 30 jours.
Le truc
nous garder ici.
Ouais, bien sûr, mais le truc,
moi j'ai fait appel. Moi je voulais pas que je reste ici 26 jours. J'ai fait appel avec la CEMAT, j'ai fait appel avec mon avocate et le greffe il m'a dit non. Son appel pour que je puisse sortir d'ici et je vais aller me juger à Cité, à Châtelet.
Là, ouais,
je vais
mais donc...
devant un vrai juge, pas un juge qui est manipulé par les préfets.
Mais de toute façon, ils sont tous manipulés par les préfets. Enfin, je veux
voilà.
dire en fait le bail. Mais donc c'est pas une question de
pour l'audience, pour une autre audience. T'as pas de chance. Dès que tu rentres au CRA, je vous ai dit, c'est les derniers 90 jours.
Mais t'es d'accord que ça serait dégueulasse de virer aussi quelqu'un s'il habitait chez son poteau?
Comment?
T'es d'accord de dire que ça serait aussi dégueulasse de virer, de mettre quelqu'un en CRA juste parce qu'il habite chez quelqu'un, chez un pote?
Oui, je sais. Voilà. Pas si quelqu'un te ramène un attestation d'hébergement.
Voilà. Mais donc, en fait, c'est toujours.
Le monsieur doit être hébergé. Mmh. On est bien d'accord. Et le monsieur, l'hébergeur, vous avez tous ces renseignements. Même le monsieur là, s'il fait une autre connerie, vous allez direct à l'adresse, vous allez trouver le vrai propriétaire. Mmh. Il va vous mener direct vers celui qui a fait la connerie.
Peut-être on. Désolé, peut-être on va pas trop. On peut se rappeler peut-être après et tout aussi pour rediscuter un peu tout le reste et tout.
D'accord. On vous remercie.
Mais merci beaucoup d'avoir appelé. C'était vraiment super cool que vous parliez.
Non, d'accord. Juste, attendez, moi j'avais une question.
Comment ?
Ouais, j'avais juste une dernière petite question. Vous avez commencé à faire les refus de plateau ce midi ?
J'ai pas écouté.
Vous avez fait des retours de les refus de plateau dès ce midi ? La grève de la faim, vous l'avez commencé dès ce midi ou pas ?
Attends, je vous entends mal, monsieur, par contre tout à l'heure. Hein.
Ah, est-ce que les refus de plateau, vous avez commencé ce midi ?
Oui, bien sûr.
Et comment ils ont réagi ?
On a commencé ce midi, elle va continuer à un terme. Je ne voulais pas vous expliquer, je suis en ligne, on est en radio, et là, vous aurez des nouvelles. Dans pas longtemps, là, à 18h, on ne va pas manger, et ce soir, on va faire un truc aussi.
Ok, et pour l'instant, ils ont réagi comment ?
Ben là, non, c'est comme si rien n'était. Je vous ai dit, monsieur, c'est okay. Comme si qu'un oiseau, ils l'ont trouvé par terre, ils l'ont remis dans la niche.
C'est affreux.
Quoi que ce soit, quoi qu'il y ait un cas... je sais pas quoi qui s'arrive ici, ça va passer comme une liste blanche.
Bon, plein de force à vous.
Merci.
Bon courage.
Ouais,
et
bon courage à vous.
Merci, il faut passer notre message.
Ouais, oui, on reste en contact.
Et Dieu est grand. Merci.
On passe un petit coup de musique.
C'est comment? Là, je suis d'humeur à t'envoyer un roman. Dehors, ça va pas, même les petits veulent faire la bataille. Ego, c'est incroyable, le terrain tombe plus comme avant.
Non.
Le terrain tombe plus comme avant.
Non.
Et tous les matins, y'a la daronne qui se demande qu'est-ce que son fils il fait dans la vie. Je peux même pas lui répondre.
Non.
Donc j'évite les questions.
Non.
Toi-même, t'es béton. Ça commence à faire long.
Ouais.
Ça commence à faire long. J'ai promis d'assurer.
Ouais.
J'ai promis d'assumer.
Ouais.
Je récupère un sans meuge demain, je t'envoie la moitié.
Ouais.
C'est toujours plus dur dedans que dehors. Quand tu sors, on se barre au bord de mer. Trois piches fermes, zéro perme. Y'a plus personne qui demande des nouvelles. Oh là là là.
Trois piches fermes, zéro perme.
Y'a plus personne qui demande des nouvelles.
Dedans c'est dur.
Et dehors c'est dur.
C'est sorti, c'est sûr.
Le SS et le Mirador veulent gâcher nos vies.
C'est noir ce qui se passe entre les murs. J'ai trop vu la hurle. Le mal chante ma mélodie.
Oh,
je suis solo dans ma putain de bulle. Et à ma sortie, je vais leur faire un génocide.
Oh, Dedans c'est dur. Et dehors c'est dur aussi.
C'est sorti, c'est sûr.
Le SS et le Mirador veulent gâcher nos vies.
C'est noir ce qui se passe entre les murs. J'ai trop vu la hurle, le mal chante ma mélodie.
Oh,
je suis solo dans ma putain de bulle. Et à ma sortie, je vais leur faire un génocide.
Oh,
mon ref, moi ça va, alhamdoulilah. J'ai reçu la moitié de ton bail. J'entends les nouvelles, je suis de mauvaise humeur. Et je m'endors à 6h du mat.
Ma plaque a sauté, je mange la gamelle. On m'a dit que ma meuf s'est fait galoche. Y'a des bébés qui m'envoient des lassos. Je suis tranquille, Villepinte, c'est la maison. Et je deviens paro, en vrai tu m'oublies. Me pose des questions, on est frère ou pas. Y'a beaucoup de choses que toi t'as même pas dit. Mais quand je serai dehors, on va régler ça. Je parle pas trop, à la base je fais l'innocent. On croyait que c'était pas lourd, j'ai pris 8 ans. Je voulais le Versace tout en Médusa. Là quand je sors demain, je fais des cadavres. Et je fais ma peine, je sais pas si tu me suis. Je suis parti pour 8 ans à cette heure-ci. RSS il me parle comme John Gucci. J'imagine des vies. Nous on se connaît, on n'est pas novices. Tu fais le chelou quand tu parles au fun. Dans quelques années, on se revoit en face. On est des bonhommes, pas besoin de parler fort.
Dedans c'est dur, dedans c'est dur. Et dehors c'est dur aussi, dehors c'est dur. C'est sorti, c'est sûr. Le SS et le Mirador veulent gâcher le hobby.
C'est noir ce qui se passe entre les murs. J'ai trop vu la hurle, le match chante ma mélodie.
Oh, no.
J'suis solo dans ma putain de bulle. Et à ma sortie, je vais leur faire un génocide.
Oh, no. Dedans c'est dur, dedans c'est dur. Et dehors c'est dur aussi, dehors c'est dur aussi. C'est sorti, c'est sûr. Le SS et le Mirador veulent gâcher nos vies.
C'est noir ce qui se passe entre les murs. J'ai trop vu la hurle, le mal chante ma mélodie.
Oh, no.
J'suis solo dans ma putain de bulle. Et à ma sortie, je vais leur faire un génocide.
Oh, no.
Vous êtes de retour à l'écoute de l'Envolée sur FPP 106.3, comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30. Donc, je vais juste rappeler les contacts, parce que je ne sais pas trop si on l'a fait dans ce début d'émission un peu rapide et schlag, pas trop prévu. Mais du coup, bon, là, du coup, c'est une émission qui est enregistrée le vendredi 18 octobre dans l'après-midi, donc ça ne sert à rien de nous appeler en direct si vous écoutez sur la FM. Mais vous pouvez nous joindre toute la semaine au 07 53 10 31 95. Vous pouvez nous écrire à fpp-l'envolée, 1 rue de la Solidarité, Paris 19e, et nous contacter sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Du coup, là, on a eu un appel, des appels du CRA de Ménil Hamelot, et on voulait quand même réagir un petit peu à ce qui a été dit à l'antenne pendant cette première demi-heure. Du coup, je ne sais pas par quoi vous voulez commencer.
Déjà juste rappeler, comme ça a été dit avant, qu'en vrai toutes ces informations là qu'on a, mais comme ça avait été le cas encore plus je pense quand il y a eu la mort de Mohamed, on l'a parce qu'il y a des gens à l'intérieur qui parlent et qui aussi prennent des risques en vrai de le faire, parce qu'on sait que des fois il y a de la répression sur les personnes qui font sortir la parole à l'extérieur quoi. Du coup ça c'est quand même super important. Y a d'autres personnes avec qui on a pu parler dans l'après-midi qui sont des personnes qui étaient dans sa chambre ou dans la chambre à côté, donc étaient vraiment avec lui quand il est mort. Et juste ces personnes-là, elles n'ont pas souhaité s'exprimer en direct et elles sont vraiment sous le choc là maintenant d'avoir gérer la mort de quelqu'un dans un contexte vraiment, vraiment horrible quoi, et en essayant d'appeler à l'aide sans que les secours viennent, et que ça les met vraiment dans un truc d'être face au fait qu'en fait dans ce contexte-là, n'importe qui pourrait mourir à n'importe quel moment, et en fait c'est impossible d'avoir du secours de l'extérieur quoi. Et je pense que c'est un truc qui se rajoute vraiment à l'angoisse horrible qu'il y a déjà dans le centre de rétention, de pas trop savoir quand est-ce qu'on sort, de pas trop savoir si on risque de se faire expulser, de faire face aux violences policières quoi. Donc je pense que c'est aussi vraiment un truc qui s'ajoute à la forme de torture psychologique que c'est l'enfermement dans les centres de rétention et l'enfermement en général quoi.
Peut-être juste sur ce point-là rajouter que les personnes proches des personnes qui décèdent dans les CRA, elles sont particulièrement dans la merde après, parce que par exemple, après la mort de M au CRA de Vincennes il y a plus d'un an, son codétenu avait été renvoyé genre 24 ou 48 heures après directement. Aussi dans l'idée qu'il n'y ait pas de témoignage qui soit fait sur les conditions du décès, etc. Et du coup, voilà, ça rajoute aussi au fait que. Ça rajoute aussi grave au fait qu'il soit dans la merde, quoi.
Ouais, et juste là, du coup, on parle des CRA, mais on voulait quand même rappeler que ça se passe aussi beaucoup comme ça en tôle, et qu'en fait, il y a ce truc d'être en cellule aussi enfermé avec un interphone où, quand t'as un problème, t'appelles, et que, des fois, ils répondent pas, et qu'il y a aussi des personnes qui meurent en tôle de cette manière-là, et qu'en fait, aussi, les personnes qui auraient pu mourir mais ne meurent pas, c'est souvent grâce à la solidarité des gens qui sont enfermés avec elles ou avec eux, et là, en fait, c'est encore une histoire qu'on a entendue là quand les prisonniers ont appelé, c'est que en fait, sur une tentative de suicide où personne vient, les keufs viennent pas, les pompiers viennent pas et tout, c'est les autres qui sont enfermés avec, qui aident. Et on a raconté pas mal d'histoires comme ça qui se sont passées en tôle, et notamment aussi des histoires de personnes qui avaient besoin d'insuline ou quoi, où en fait, c'est l'aco dans la cellule qui en fait va faire que cette personne survive. Donc de ce point de vue-là, ça se passe vraiment pareil. Et même ce truc en fait de pas mettre les proches, je pense que c'est des dynamiques différentes en CRA et en tôle de ce point de vue-là, mais en tôle aussi en fait des fois ils préviennent juste pas les proches et ça peut être une galère. Et c'est des choses qu'on a souvent racontées à l'antenne, soit ils préviennent pas, et même quand ils préviennent après ils font galérer pour récupérer les affaires, des trucs comme ça. Et en fait c'est aussi une torture des proches de ce point de vue-là, quoi.
Et puis comme vous le racontez souvent, genre y a des familles qui se mobilisent pour les personnes en tôle qui sont mortes dans des conditions un peu suspectes ou des choses comme ça. Mais déjà pour eux c'est des vraies galères et c'est des luttes qui mettent des années. Genre il y avait les témoignages de la mère Didier ou des choses comme ça à l'antenne il y a quelques semaines. Et en fait en CRA il y a aussi le truc que genre des fois les proches des personnes qui décèdent elles sont elles-mêmes en situation régulière, voire elles sont pas en France. Du coup il y a aussi un truc de, je pense que ça arrive quasiment jamais en fait qu'il y ait des plaintes ou des choses comme ça de la part des proches des gens qui décèdent dans ces conditions-là, parce que juste les gens ils n'ont pas les moyens de le faire ou c'est pas la priorité, quoi.
Et aussi ce qui se passe parfois c'est que les personnes qui vont notamment en tôle, on a souvent eu des témoignages de gens qui survivaient, enfin qui voilà grâce à la solidarité des co-détenus qui allaient sauver une personne qui faisait par exemple une tentative de suicide, et ben souvent ces personnes là qui sont du coup dans un état de santé mentale hyper difficile subissent de la répression. D'autant plus quoi, on a déjà lu plusieurs lettres qui parlaient de ça, des personnes qui étaient en module ouvert qui allaient passer en module fermé, voire des personnes qui allaient être isolées. Donc il y a aussi ce truc de on te punit alors que toi t'es déjà dans un état où tu te fais du mal à toi-même, quoi.
Et moi je voulais rappeler juste ce qui s'est passé du coup l'année dernière, c'était en 2023. Quand il y a eu une personne M qui est morte au CRA de Vincennes, et on en avait déjà parlé à l'antenne, mais juste pour rappeler toujours le rôle de que ce soit en prison, l'administration pénitentiaire, en CRA, les flics qui gèrent les CRA et toutes les personnes qui travaillent à l'intérieur. Ce qui s'était passé, c'est qu'une personne a été tabassée pendant plusieurs jours, qui a été à l'isolement. Et qui avait des blessures déjà physiques à cause de tout ça, qui ensuite est sorti de l'isolement, a dormi une nuit dans sa chambre et a été retrouvé le matin mort. Le corps retenu, du coup, comme a été dit avant, a été renvoyé direct, a été expulsé direct. Les personnes qui étaient témoins, ils ont eu du mal à faire sortir l'information. L'ASFAM, qui est l'association qui travaille à l'intérieur du CRA de Vincennes, ils n'ont pas fait sortir l'information. La police, ils ont évité de faire sortir ça. C'est juste grâce au fait qu'il y avait un lien avec les retenus au CRA de Vincennes que l'information est sortie. Et que les gens ont pu témoigner de ce qui s'est passé. Ils sont révoltés aussi à l'intérieur. Il y a des grèves de la faim. Ils ont subi une grosse répression. Il y a eu des violences policières au quotidien sur les personnes qui essayaient de faire sortir la vérité sur cette mort. Et finalement, il y a eu l'info officielle qui est sortie. C'était juste que il y avait la mort était naturelle ou toxique. Du coup, ça veut rien dire parce que mort naturelle, ça peut être une mort suite à des en gros c'est très très vague comme manière d'informer sur la mort, et c'est juste qu'ils ont évité de faire toute autre enquête plus poussée, et ils ont même pas informé la famille qui a été informée par les retenus. Du coup, pour revenir sur la question de la famille, du coup, voilà, ça c'est juste un des plans de choses qui se passent à l'intérieur. Mais justement, comme on a dit avant, il se passe des trucs horribles tout le temps. Et aussi, il y a une autre personne qui était morte l'année dernière et qui par contre, était suite à un manque de soins. Du coup, qui était passé plusieurs fois à l'hôpital, et tout en étant dans une condition physique très mauvaise. Cette personne s'était évanouie devant le juge au JLD, et le juge l'avait quand même prolongé, avait maintenu l'enfermement, et cette personne est morte ensuite en étant encore en en rétention. Du coup, voilà, ça, c'est pour dire comment toute cette machine de l'enfermement tue. Et aussi toutes les personnes, et c'est la police, mais c'est aussi les personnels médicaux qu'il y a dans les CRA, c'est aussi les associations qui souvent, soit elles participent, soit ils participent au silence qu'il y a autour de tout ça. Et du coup, c'est vraiment important d'être en lien avec les personnes qui sont à l'intérieur, de faire sortir la parole, de soutenir en tout cas le plus possible et de s'attaquer à toute cette machine qui enferme et qui tue.
Et là, du coup, à l'heure où on parle, il y a déjà un article de presse qui est sorti qui parle de cette mort. Mais du coup, c'est la version qui est présentée, c'est que les flics sont intervenus, ont utilisé un défibrillateur et qu'en aucun cas, ils peuvent être tenus responsables de cette mort. Ça, c'est le discours du syndicat Alliance qui est relayé dans cet article de presse. Et sinon, si ce qu'on peut rappeler, c'est que c'est une mort qui intervient dans un contexte politique particulier. C'est-à-dire que là, il y a encore quelques jours, il y a à peine quelques jours, il y a Bruno Retailleau qui est venu en visite dans ce CRA au Ménil-Amelot, où il a rappelé sa volonté de rallonger la durée maximale de rétention, de la faire passer de 90 jours à 210 jours. Il a aussi tenu à rappeler qu'il voulait bien poursuivre le programme de construction de nouvelles places en centre de rétention qui avait été déjà préparé et commencé à être mis en œuvre sous le précédent gouvernement.
Et puis juste par rapport à ça, il me semble qu'il y a aussi la question de genre repousser, avec le truc d'allonger la durée d'enfermement, il y a aussi la question de repousser le premier passage devant le juge des libertés et de la détention. Plus, parce que pour le moment, les gens doivent passer devant ce juge-là après 4 jours. Et même si de fait la plupart des gens sont renouvelés de manière assez systématique et en vrai il y a très peu d'examens des dossiers, souvent ils sont défendus par des commis d'office qui plaident rien et c'est quand même plutôt genre une formalité qu'un jugement quoi. C'est quand même les seules occasions dans lesquelles des personnes, notamment des personnes qui ont des problèmes lourds de santé, peuvent être libérées quoi. Même si c'est pas du tout le cas tout le temps et plutôt en vrai il y a plein de gens qui ont des problèmes de santé de ouf et qui restent enfermés. Et je pense qu'on a déjà aussi, enfin, il y a aussi pas mal de fois des gens qui ont parlé de ça. C'est quand même genre un peu les seules occasions qu'il peut y avoir aussi de libérer des personnes. Enfin, voilà. Et du coup, en vrai, ces mesures-là, concrètement, ce que ça va faire, c'est que bah, va y avoir plus de gens qui vont mourir ou qui vont voir leurs conditions de santé se dégrader horriblement en craquant, quoi.
Ouais, et c'est important ce que tu as dit, qu'en fait, dans les articles de presse, on n'a que la version du syndicat Alliance, parce que c'est ce qui se passe à chaque fois. Et en prison, c'est pareil. En fait, à chaque fois qu'il y a ce qu'ils appellent une mort suspecte ou un suicide, avec toutes les guillemets qu'on peut y mettre, en fait, ou même des mouvements collectifs, comme on en a parlé il y a une ou deux semaines, en fait, on n'a jamais que la version, que soit des keufs, soit des matons, par l'intermédiaire de leur syndicat, quoi, ce qui rend d'autant plus important, comme vous l'avez dit, quoi, d'essayer de faire sortir la parole des gens qui le vivent directement. Moi, je voulais rajouter un truc par rapport à ce que les prisonniers ont raconté tout à l'heure, c'est que, et ce que toi tu rappelais, c'est ce truc de l'isolement qui est hyper central, et qu'en fait, l'isolement en CRA, ça joue le même rôle que le mitard en prison, que ça va être un endroit en fait, de répression, même de répression de personnes qui ont tenté de se suicider, ce qui est quand même un truc de ouf, quoi. Là, on a eu cette histoire tout à l'heure d'un gars qui essaye de se suicider, on le met à l'isolement, on se doute que ça va pas trop le soigner. On a déjà raconté des histoires que des prisonniers qui font des tentatives de suicide, on les fout au mitard, ce qui est en fait l'endroit de la tôle où ils ont le plus de chances de réussir à se suicider, quoi, je sais pas comment le dire. Et donc c'est quand même un truc de ouf, et c'est aussi l'endroit où ils vont encore plus réussir à ce que l'information elle sorte pas, parce qu'il y a moins de témoins. En fait, tu peux faire ce que tu veux aux gens à l'isolement, quoi. C'est un endroit où bah, du coup personne n'en saura jamais rien, quoi.
Oui, carrément. Et puis, bah, je pense qu'on avait déjà aussi pas mal de fois parlé des questions de santé, de santé et d'enfermement globalement. Et genre, toutes ces questions de... Bah, déjà, les gens, ils vont super mal psychologiquement, mentalement, en CRA, quoi. Mais en plus de ça, il y a quand même tout un truc de genre... des fois, le côté de mettre sa vie en danger et se blesser et tout, c'est aussi le seul moyen que les gens, ils ont en CRA comme en prison pour obtenir des choses, pour obtenir des rendez-vous, pour obtenir de voir un dentiste, pour obtenir des trucs comme ça. Et que c'est aussi toujours un truc de en vrai pousser les gens à se mettre en danger le plus possible. Et moi j'ai l'impression qu'en vrai le fait qu'il y ait des morts dans les centres de rétention c'est pas, enfin je pense que c'est plus un peu la partie émergée du truc, de genre je pense que globalement ça les arrange pas, parce que malgré tout ils sont quand même un peu obligés de faire un semblant de truc, de montrer que ça a été évalué médicalement et tout, mais genre en vrai enfin la santé des personnes c'est vraiment la dernière des priorités, et en vrai je pense que enfin le but c'est plutôt de les garder un peu sur le fil de la vie et de les expulser, mais genre s'ils peuvent expulser les gens même dans des situations de santé horribles, ils le feront quoi.
De toute façon les refus de soins ils sont systématiques quoi, il y a aussi pas mal de personnes en centre de rétention qui racontent juste que de toute façon quel que soit ce qu'ils ont, et c'est la même chose en tôle aussi, hein, on leur file un doliprane et on leur dit d'aller se faire foutre, ça a plus l'administration de médicaments chelous pour te faire pioncer et te garder tranquille. Et du coup j'en profite un peu aussi pour rappeler que dans le numéro 56 je crois de l'Envolée, il y avait eu un article qui essayait d'expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionnait en fait ce truc médical et ce truc de refus de soins systématique. Vous aviez quelque chose que vous vouliez rajouter?
Bah du coup peut-être juste rajouter que les ouvertures de places en CRA ça s'accompagne de construction de CRA où il y a plein de CRA qui sont il y a plein de CRA qui enfin de projets de construction de CRA en ce moment, je sais plus combien il y en a. Je sais plus si on a un chiffre mais bon en tout cas il y a
en gros genre l'idée c'est de doubler les nombres de places de rétention. Mmh. Du coup ça va juste doubler le nombre de personnes qui peuvent être enfermées.
Et du coup voilà concrètement aussi militer contre les CRA c'est aussi militer contre leur construction et il y a des choses qui se passent en ce moment autour de ça et il faut se saisir de ce truc là aussi quoi.
Et puis que c'est un peu comme je pense vous le dites pour la tôle en général que genre bah plus il y a de place plus ça va être rempli en général et genre ça va jamais améliorer les conditions d'enfermement des gens même s'ils peuvent un petit peu faire de la communication là-dessus pour bah convaincre je sais pas le PS ou des trucs comme ça de soutenir ces projets là mais c'est aussi que bah nous on pense que plus il y a de place dans les centres de rétention bah plus ils vont mettre des OQTF et plus ils vont arrêter des gens pour essayer de les expulser et là en plus avec le contexte politique actuel et les dernières polémiques enfin on voit bien que de toute façon c'est le projet assumé quoi.
Ouais, est-ce que peut-être vous pouvez nous rappeler l'adresse du blog pour les gens qui nous écoutent à l'extérieur? C'est abalekra.noblog, quelque chose comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur ce site pour avoir les infos et écouter, regarder les témoignages qu'il y a dessus.
Ouais, c'est ça, abalekra.noblog.org.
Et il y a aussi un Twitter qui est abalekra aussi.
Et on est aussi sur Mastodon.
Et bientôt Instagram.
Et sur le blog, il y a un téléphone collectif du coup, qui peut être appelé par des proches, par n'importe qui. Quoi.
Bah, merci beaucoup en tout cas. On va passer un coup de musique.
Bah, merci à vous.
Merci.
Il était une fois, un jour de paix. Gaza. Je vise un cessez-le-feu, je tire une doigt. Je peux pousser la mélo, je peux faire que ça. Encerclé par les faits, je prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza? À Gaza. À Gaza. À Gaza. L'horizon est bleu, oui, je kiffe là. Nos réseaux expriment la liberté. La paix, mon frère, ma soeur, c'est le seul sujet. Mon Dieu, c'est fou, j'entends Gaza prier. Face et malade sont égarés. Mon plus d'âme de sentiment futur cramé. Peut-être que la distance a aveuglé des cœurs. Pour tous ces morts, on devrait déposer quelques fleurs. À Gaza. 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 qu'on est fait de la même chair. La vie n'a pas de prix, mais la mort te coûte cher.
Vous êtes de retour à l'écoute de l'Envolée comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur FPP 106.3. Je rappelle rapidement les contacts. Vous pouvez nous joindre toute la semaine au 07 53 10 31 95. Vous pouvez nous écrire, notamment pour vous abonner ou abonner vos proches à FPP-L'Envolée, 1 rue de la Solidarité, Paris 19e, et nous contacter sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter. Du coup, comme on vous le disait, on n'avait pas trop prévu de faire une émission aujourd'hui. Et il y a eu ces événements au Ménil-Amelot où on s'est dit que c'était un peu urgent de le passer. Du coup, là, on va juste vous passer un enregistrement. Pour finir cette émission. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Et on va peut-être vous passer une petite musique avant. Voilà. À la semaine prochaine.
Un roman. Wesh, Frollo, c'est comment? Là, je suis d'humeur à t'envoyer un roman. Dehors, ça va pas, même les petits veulent faire la bataille. Ego, c'est incroyable, le terrain tombe plus comme avant.
Non.
Le terrain tombe plus comme avant.
Non.
Et tous les matins, y'a la daronne qui se demande qu'est-ce que son fils y fait dans la vie. Je peux même pas lui répondre, donc j'évite les questions.
Non.
Toi-même, t'es béton. Ça commence à faire long,
ouais.
Ça commence à faire long. J'ai promis d'assurer,
ouais.
J'ai promis d'assumer,
ouais.
Je récupère un sommeil demain, je t'envoie la moitié,
ouais.
C'est toujours plus dur dedans que dehors. Quand tu sors, on se barre au bord de mer. Trois piches fermes, zéro perme. Y'a plus personne qui demande des nouvelles. Oh là là là.
Trois piches fermes, zéro perme.
Y'a plus personne qui demande des nouvelles.
Dedans c'est dur,
dehors c'est dur aussi.
C'est sorti c'est sûr,
le HSS et le Mirador me gâcher nos vies.
C'est noir ce qui se passe entre les murs, j'ai trop vu la hurle, le mal chante ma mélodie.
Oh no.
J'suis solo dans ma putain de bulle et à ma sortie, je vais leur faire un génocide.
Oh no.
Dedans c'est dur,
dehors c'est dur aussi.
C'est sorti c'est sûr,
le HSS et le Mirador me gâcher nos vies.
C'est noir ce qui se passe entre les murs, j'ai trop vu la hurle, le mal chante ma mélodie.
Oh no.
J'suis solo dans ma putain de bulle et à ma sortie, je vais leur faire un génocide.
Oh no.
Mon ref, moi ça va, alhamdoulilah. J'ai reçu la moitié de ton bail. J'entends les nouvelles, j'suis de mauvaise humeur et j'm'endors à 6h du mat. Ma plaque a sauté, j'mange la gamelle, on m'a dit que ma meuf s'est fait galoche. Y'a des bébés qui m'envoient des lasso. J'suis tranquille, ville pointe, c'est la maison. Et je deviens paro, en vrai tu m'oublies. Me pose des questions, on est frère ou pas. Y'a beaucoup de choses que toi t'as même pas dit. Mais quand je serai dehors, on va régler ça. Je parle pas trop, à la base je fais l'innocent. On croyait que c'était pas lourd, j'ai pris 8 ans. Je voulais le Versace tout en Médusa. Là quand je sors demain, je fais des cadavres. Et je fais ma peine, je sais pas si tu me suis. Je suis parti pour 8 ans à cette heure-ci. RSS il me parle comme John Gucci. J'imagine des vies. Nous on se connaît, on n'est pas novices. Tu fais le chelou quand tu parles au fun. Dans quelques années, on se revoit en face. On est des bonhommes, pas besoin de parler fort.
Dedans c'est dur. Dehors c'est dur aussi. C'est sorti, c'est sûr.
Le HSS et le Mirador me gâchent nos vies.
C'est noir ce qui se passe entre les murs. J'ai trop vu la hurle. Le mal chante ma mélodie.
Oh no.
J'suis solo dans ma putain de bulle. Et à ma sortie, je vais leur faire un génocide.
Oh no.
Dedans c'est dur.
Dehors c'est dur aussi.
C'est sorti, c'est sûr.
Le HSS et le Mirador me gâchent nos vies.
C'est noir ce qui se passe entre les murs, j'ai trop vu la hurle, le mal chante ma mélodie.
Oh no.
J'suis solo dans ma putain de bulle et à ma sortie, j'vais leur faire un génocide.
Oh no.
Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Merci beaucoup d'accepter de parler avec nous, parce qu'on pensait que pour cette journée, c'était quand même très important de ne pas parler seulement d'Adama, mais de parler aussi de tous les autres gens qui se sont fait tuer, assassiner, il faut bien dire le mot, par la police récemment. Et en fait, tu es la sœur d'Angelo Garan, qui a été exécuté, je pense on peut le dire, le 30 mars dernier, par une équipe du GIGN chez ses parents.
Oui, bah, c'est important aussi pour nous de témoigner, puisque depuis le 30 mars, depuis que mon frère s'est fait tuer, en fait, tous les tués par la police ou par les GIGN ou les forces de l'ordre, en fait, c'est un peu devenu nos frères aussi. On partage la peine et c'est vraiment une douleur. On perd notre frère, mais en plus, c'est incompréhensible puisque c'est les personnes qui sont censées nous protéger, ne sont pas censées nous tuer, justement. Et ils ont, oui, exécuté mon frère de 7 balles dans le corps. On a pris 7 balles dans le corps. Donc, il n'y a pas d'autre mot que c'est une exécution pour nous.
Je crois que c'est important pour les gens de bien comprendre ce qui s'est passé, parce qu'en plus, cette histoire, on n'en a pas tant parlé que ça, en fait, dans les médias, en réalité. Et donc, en fait, ton frère, il était parvenu de permission, parce qu'il était en prison. Il avait eu une permission, il était parvenu. Et donc, il était, je crois, ce jour-là, il était chez tes parents.
En fait, mon frère, il a été incarcéré à la prison d'Yvonne. Et au mois de septembre, ils ont donné une permission de une journée. Et en fait, il n'est pas rentré. Et mon frère, il vivait à droite, à gauche, quoi, en fait. Et le 30 mars, il est venu pour manger une grillade. Que j'avais mon petit frère qui était sorti de prison il y a une semaine avant. Il était venu pour partager un repas familial, en fait. Il faisait rien de mal, il n'a mis personne en danger ce jour-là. Et il est arrivé vers 13h. Et vers 13h, les GIGN sont intervenus. Ils ont mis ma famille en joue. Ils ont menotté mon père, mon frère, mon oncle. Il y avait aussi mon fils de 4 ans. Et mon frère, il s'est juste caché. En fait, il n'a pas couru, il n'a pas fui. En fait, on ne sait même pas s'il a pris conscience que c'était le GIGN, en fait. Il s'est juste caché.
Il s'est caché dans une grange, en fait, c'est ça?
Dans une petite grange, oui. Il y avait pas de... En fait, il n'y avait rien. Il ne pouvait pas s'échapper, il n'y avait qu'une sortie. Mmh. Il s'était caché dans cette petite grange et là, ils ont stoppé tout le monde mitraillette. Enfin, ils ont fouillé le terrain et ils étaient prêts à partir. Et mon frère a fait tomber un petit sac dans cette grange. Ça a été très vite. Là, ils sont précipités dans la petite grange. Ils étaient 4. Et aussitôt, ils ont tiré. En fait, il n'y a pas eu de bruit, il n'y a pas eu de sommation, il n'y a pas eu de forte résistance, comme a pu dire les médias. Enfin, le procureur, du moins. Le procureur, lui, il a dit qu'il s'était rebellé, mais mon père, il était à un mètre de cette grange, menotté par terre, en train d'étouffer mon père sous appareil respiratoire. Et quand ils sont entrés, en fait, ça a été direct, ils ont tiré direct. Aucun bruit, aucun mot de la bouche de mon frère, en fait.
Et ton frère, il n'était pas armé, en fait?
Non. Il devait peut-être, le coup du couteau, il devait avoir un couteau, puisque normal, ils étaient en train de manger, en fait. S'il a un couteau sur lui, c'était tout à fait, voilà, en train de manger, et tout ce qu'il avait.
Tu parles du GIGN, et ça, c'est quand même un truc qui est très important à dire, c'est qu'en fait, comme ton frère était juste pas rentré de permission, c'était pas du tout un prisonnier en cavale, en plus, il y était pour vol, je crois, c'était pas du tout quelqu'un de dangereux, et ils ont fait intervenir des équipes d'intervention qui sont normalement là pour s'occuper des cas de forcenés ou de terrorisme ou ce genre de choses, quoi.
C'est ce qui nous semble dégueulasse, quoi, en fait, parce que ils lui donnent une permission, ils rentrent pas, et il faut intervenir le GIGN, il tue, et après il criminalise mon frère en disant qu'il était dangereux, un forcené. Mais c'est eux qui lui ont donné la permission. Je crois pas qu'en dans le monde carcéral, ils donnent des permissions aux hommes dangereux, en fait.
Non, on le sait bien.
Voilà.
Ils en donnent même pas aux pas dangereux, donc ils en donnent pas aux dangereux, c'est sûr.
Voilà, ils en donnent en fait quand ils ont envie d'en donner. Et en fait, maintenant je me dis, cette permission, c'était n'importe quoi. Une journée pour voir sa famille, que lui il était à Poitiers, que nous on est de Blois.
Oui, ça veut dire Poitiers-Blois, ça veut dire qu'il allait passer 4 heures dans le train en tout, en gros.
Voilà, en fait. Et pour voir sa famille, c'est beaucoup trop court. Mourir au bout du compte, mon frère, jamais il aurait pensé mourir au bout du compte. Au pire, il s'était dit, c'est 6 mois de plus. Ouais. Le jour qu'il se ferait prendre, c'était 6 mois de plus. C'est ce que tout le monde pense, en fait. Parce qu'il n'est pas un cas isolé à part rentrer de permission. C'est ce que tout le monde pense, c'est 6 mois de plus. Et en fait, non, au bout du compte, il l'a abattu, mais... En fait, il faisait rien de mal. C'était juste en famille, justement, qu'il était privé si longtemps. Et ils viennent et ils l'abattent.
Il purgeait une peine de combien, si c'est pas trop indiscret?
Je sais pas trop, en fait. Là, il est au bout de sa peine, mais il a passé au tribunal au mois de janvier. Il savait même pas lui-même et il venait de reprendre 4 ans. Mmh. Encore pour des vols.
Et il avait une trentaine d'années, c'est ça ?
37 ans. Il a 3 enfants et il a eu un petit-fils au début de l'année. Et il vient d'avoir une petite fille qui ne sera jamais dans ses bras.
Et donc, en fait, après le meurtre de ton frère, en fait, vous avez réagi très vite. Et notamment toi, tu avais fait une vidéo.
Oui.
Tu peux nous dire un peu, je sais pas, comment ça t'est venu de faire ça. Et puis, je pense qu'on va, la diffuser. On va diffuser le son de la vidéo parce que c'est bouleversant à entendre. Et surtout, tu avais une réaction d'une dignité que moi, j'ai trouvé incroyable. Tu étais déjà dans le combat, en fait, tout de suite.
Bah, en fait, à savoir, c'est quand ça nous arrive, on ne peut pas pleurer notre frère. Parce qu'on sait que si on se met à pleurer, qu'on sera étouffé de toute façon. La vidéo, en fait, elle est venue à cause des propos du procureur. Il a dit à mes parents, j'espère que ça ne fera pas comme en 2010, les débordements. 2010, s'il y a eu des débordements, c'est parce qu'il y a un jeune gitan qui a été abattu, 22 ans aussi. Et en fait, le procureur, je me dis, il n'a pas à parler comme ça. En fait, tout ce qu'ils attendaient de nous, c'était les débordements. Donc, j'ai eu envie, justement, de lui renvoyer la balle, à dire non, on ne sera pas manipulé, quoi, en fait. Tout ce qu'ils attendaient de nous, en fait, c'était les débordements.
En 2010, il y a donc un... Alors, je ne sais pas, toi, comment tu préfères qu'on vous appelle ? Gitan, gens du voyage ?
Bon, oui, gitan, gens du voyage, c'est comme ça qu'on les a décrits dès le départ.
Ouais. Donc, de cette communauté-là, c'était à Saint-Aignan, je crois.
Oui, c'était à Saint-Aignan.
Voilà, qui s'était fait tuer. Il y avait eu quelques débordements, on va dire, ce jour-là. Mais d'ailleurs, ce n'était pas énorme non plus, en fait, hein, ce qui s'était passé. Ce n'était pas fou non plus, ce qui s'était passé. Et donc, le procureur, sa première réaction quand il a tué ton frère, c'est de vous demander... De tout faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement. Quoi.
Il nous a demandé de ne pas faire de débordement, mais on a bien vu que c'est tout ce qu'il attendait. En fait, quand on voyait les cartes CRS qui arrivaient, en fait, quand ça s'est passé, on n'avait pas le droit de rentrer chez nous puisque le corps de mon frère est resté jusqu'à minuit. On est revenu pour prendre les affaires et là, on voit juste les cartes CRS. Quoi. On dit tout ce qu'ils attendent de nous, c'est ça. Et en plus, on voit les CRS en train de nous regarder et rigoler. C'est de la provocation, en fait. Ils nous provoquaient. Et je me suis dit, si on fait ça, en fait, bien sûr qu'on a envie de faire ça, évidemment. On est en colère, beaucoup en colère, même encore à l'heure actuelle. Et si on fait ça, je me dis, ça va passer encore à la mauvaise étiquette, parce que depuis des décennies, ils font ça, nous coller cette étiquette de violence. On est méchants, on n'est pas des gens sociables. Et en fait, je me dis, à cause de ça, on meurt, et à cause de ça, on ne peut pas se débattre. Donc c'est là que j'ai voulu renvoyer au procureur, justement, que non, on ne se laissera pas faire, et que, de toute façon, les tueurs doivent être punis.
Donc tu fais cette vidéo et ensuite, je sais pas, tu t'es rapproché assez vite des associations de famille ou je sais pas, t'as essayé
en
de trouver
fait,
des relais.
À ce moment-là, non même pas. On a mis la vidéo comme ça. Je pensais même pas, on savait même pas comment faire pour porter plainte en fait, parce que à ce moment-là, la justice ne dit pas si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez vous constituer partie civile, enfin toute la procédure. Quand en aucun cas, elle nous donne les cartes en main. Et quand il y a eu cette vidéo, j'ai Amal Bentounzi qui m'a contacté. L'urgence de police assassine. Et tout de suite, m'a donné le conseil comment faire pour se constituer partie civile, m'a donné l'idée de la cagnotte. Et de là, qu'on a pu communiquer comme ça. Après, j'ai eu d'autres associations, La Voix des Roms, j'ai rencontré d'autres familles victimes aussi.
Et vous avez organisé une manifestation, du coup, assez vite, en fait, une marche pour lui. C'était combien de temps ? C'était un mois après ?
Le 22 avril, même pas un mois après, oui.
Donc,
voulait faire cette marche justement pour pas que ça coule, puisque sur Blois, ça a circulé en fait. Et nous, on a la mauvaise image. Et justement, on doit communiquer là-dessus que gitan, délinquant, pas en réclamation, en aucun cas, il devait mourir. La peine de mort a été abolie, ça doit être pareil pour tout le monde. Et justement, on a voulu faire cette marche pour faire voir que nous aussi, on va se lever et on marchera le temps qu'il faudra marcher. Et on ne se laissera pas faire. Et en sa mémoire surtout, parce que un mois après, tout le monde continue sa vie. Et nous, on ne peut pas. Enfin, c'est une grande injustice.
Bah, c'est comme tu dis, en fait, vous ne pourrez pas le pleurer tant qu'on ne vous dira pas qu'effectivement, il a été abattu.
Non, et ça, c'est très dur.
Et cette marche, il y avait quand même... Moi, j'ai vu des photos un petit peu, il y avait quand même pas mal de monde. Et surtout pour une petite ville comme Blois, c'était surprenant. Et en plus, il y a des collectifs d'un peu partout aussi qui sont venus pour montrer leur solidarité, non ?
Oui, on était à environ 250-300 personnes. Franchement, c'était la première fois, beaucoup de gens d'entre nous, de notre communauté qui assistaient à une marche. Et ça fait du bien quand même de crier ce qu'on a envie de crier et de leur dire qu'on ne se laissera pas faire.
Et ces jours-là, du coup, je crois que c'est toi qui as tenu à t'arrêter devant le tribunal, il me semble, devant le tribunal de Blois. Je t'ai entendu dire un truc très fort, ou même je crois que t'étais menotté ou que t'avais mis les mains dans le dos comme si t'étais menotté, pour dire qu'en plus c'était un peu comme si c'était la deuxième fois qu'on le tuait, parce qu'avant déjà la prison l'avait beaucoup tué et la justice l'avait déjà beaucoup tué.
Oui, ça c'était le 30 mai, on a fait un rassemblement à Tours.
Ah c'est ça.
Devant le tribunal de Tours, puisque mon frère, la première fois qu'il a été condamné, ça a été à Tours. Et je me dis, depuis l'âge de 22 ans, en fait, la justice, ça y a laissé aucun répit, aucune chance. Maintenant, il criminalise en disant qu'il était dangereux, mais il a essayé de s'en sortir, il a voulu s'en sortir, il a été travaillé, mais à chaque fois, on est toujours rattrapé par cette justice. Et en fait, je me dis, la vie de mon frère, ça a été un condamné, et notre vie aussi à nous, maintenant, parce qu'on est condamné dans la douleur. Et ça, je veux qu'il voie et qu'ils ne débarrasseront pas, en fait, d'Angelo tant qu'il y aura sa famille.
Et puis ça,
ils ont voulu faire mon frère, c'est un condamné, en fait.
Oui, c'est ça, en fait, ils l'ont toujours condamné d'une certaine manière.
Oui, et puis la première fois qu'il est passé au tribunal, il a été décrit comme un pauvre voleur de poules. Donc, en fait, on peut se mettre des œillères, dire non, la France n'est pas raciste, mais bien sûr que oui, la France est raciste. La France ne veut pas des gitans, ne veut pas des Roms, ne veut pas des Arabes, ne veut pas des Noirs. Ben, en fait, on a notre place, je me dis, et on nous doit le respect. On a l'impression de mendier quand on fait des marches ou des minutes de silence, mais moi, je ne le prends pas comme ça, on ne mendie pas. C'est ce qu'on nous doit et on convient l'avoir et on va le prendre.
Oui, et puis en plus, il faut dire que du côté de Blois, il y a une grosse communauté, en fait. Il y a une grande communauté gitane.
Oui, on est pas mal, enfin, on est assez nombreuses familles. Il y avait aussi pas mal de gens de la population qui voulaient voir justement ce qu'on voulait revendiquer. Du coup, on a eu des retombées assez positives, quoi. Les gens nous sont tombés dans les bras en disant qu'on était des gens géniaux, enfin... On se dit, voilà, quoi, on a passé quand même un cap, même que c'est qu'à Blois. On se dit, voilà, comment on sensibilise les gens, ils voient que c'est pas vrai, la mauvaise étiquette.
Ouais, comme je te disais hors antenne tout à l'heure, en fait, moi j'ai grandi là, et du coup, le racisme dont tu parles, moi je le connais bien, moi je suis pas de votre communauté, mais je le connais bien, en fait, je l'ai vu. C'est vrai qu'il y a un racisme, il y a un vrai racisme, en fait, vis-à-vis des tiens. Donc ça fait plaisir d'entendre que la population a compris deux, trois choses, quand même.
Oui, au moins, ils commencent à comprendre, parce que c'est vrai que ici, bah même en tant que femme, quoi, d'aller faire les courses, des fois, c'est limite, on a l'impression de rentrer au parloir. On va faire les courses, on est surveillé, enfin, on est toujours surveillé, en fait. Quelle horreur.
Tu parlais d'Amal, c'est peut-être aussi quelque chose qui vous rapproche, ça, c'est que son petit frère, lui aussi, en fait, il a passé son temps à faire des allers-retours en prison avant d'être exécuté dans une pseudo-cavale, en fait.
Ouais, bah, le jour que Amal m'a appelé, en fait, tout de suite, ça a été comme, c'est comme une sœur. En fait, on se comprend. On se comprend, puisque la prison nous a toujours privés, en fait. À l'heure actuelle, on ne peut même pas pleurer nos frères qui seront partis, qu'on ne serra jamais dans les bras. La prison nous a toujours privés d'eux, pour au bout du compte les abattre lâchement.
Et tu parlais de la voix des Roms. Je ne sais pas, du coup, eux, ils se sont solidarisés avec vous. Il y a eu des actions communes ou des prises de parole communes?
Oui, j'ai le 18 mai à l'insurrection gitane. J'ai été invitée pour une prise de parole avec Amal. Contre les violences policières, justement, et avertir la population aussi qu'avec leur loi qu'ils ont sortie à fin mars, qu'au bout de deux sommations, ils ont le droit d'abattre. Évidemment, quand il n'y a pas de témoins, quoi, ils ne gêneront pas pour abattre. Quand je vois pour mon frère qui avait ma famille, mon petit garçon, ils ne sont pas gênés. Donc, on a le devoir aussi de communiquer là-dessus, de dire que ça peut arriver à tout le monde et que même au bout de deux sommations, maintenant, ils peuvent abattre. Pour moi, la peine de mort a été rétablie en France.
De fait.
Sans qu'on sache.
Ouais, et puis en plus, ce que tu décris de ce qui s'est passé ce jour-là, il n'y a pas eu de sommation.
Il n'y a pas eu, c'est ça. Donc maintenant, s'ils ont le droit en plus avec, donc ça va être un carnage. Genre, on peut le voir depuis le début de l'année, quoi. D'habitude, c'était 15 par an. Je pense que cette année, on va dépasser les 15 par an.
Ben, je crois qu'on en compte déjà, oui, 7 ou 8 maintenant.
Mars, je pense que mars-avril, ça a été pire.
Et tu parlais d'une cagnotte. Elle est encore active, la cagnotte? On peut encore donner?
Oui, sur Litchi.
Sur Litchi?
C'est Litchi, oui. C'est ouais. Justice pour Angelo, la page Facebook. On a aussi ouvert une page Facebook. Justice ouais. Pour Angelo, pour communiquer à chaque prise de parole, ou même quand on participe aux marches aussi, pour les auditions.
Je crois que tu me disais que vous alliez participer à la marche du 22 aussi, non?
Oui, on va pour Adama samedi 22 à Beaumont-sur-Oise.
D'ailleurs, on invite tout le monde à y aller, hein, même de loin, parce que vous êtes quand même pas juste à côté. Blois, c'est pas la porte à côté, mais il faut y aller. Parce que, parce qu'en fait, c'est un peu comme tu dis, en fait, à chaque fois que quelqu'un tombe, ça nous rappelle toujours tous ceux qui sont tombés avant. Et ça finit par faire une. Voilà, comme tu dis, en fait, une fraternité entre tous les gens qui ont perdu des proches sous les balles de la police. Et ça commence à faire du monde, quoi. Donc il faut que ce monde, il se transforme en force, en fait.
C'est comme ils disent dans une vidéo pour Adama, hein, on fait rien, à mille, on fait plus. Et c'est ça le truc, en fait. Il faut qu'on soit, tous qu'on soit ensemble, puisque que ce soit Adama, Angelo, enfin toutes les victimes, en fait, on a tous le droit à la justice pour nos frères.
Mais d'ailleurs, oui, justement, en parlant de justice, donc ce procureur-là, qui donc a voulu surtout éviter des débordements, et puis après a voulu faire passer Angelo pour un dangereux, un voleur, et ainsi de suite, là, quelqu'un de violent et tout ça. Vous vous êtes constitué partie civile, vous avez trouvé un avocat, et ça en est où, en fait, votre procédure?
Bah, du coup, on s'est constitué partie civile, on a trouvé un avocat, mais le procureur a pris les devants, il a ouvert une enquête, il a saisi une juge. Et là, en fait, on est en instruction. Mon père et moi, on a déjà été reçus. Ma famille doit être entendue au mois d'août.
C'est instruit à Blois, à Tours?
À Blois, oui. Non, pour le moment, c'est à Blois.
Et tu penses que ça va travailler correctement?
Bah, pour le moment, la juge, elle dit vouloir faire son travail. Mais évidemment, on sait bien qu'il faut qu'on se mobilise quand même, puisque la justice, franchement, personnellement, j'ai aucun espoir en la justice quand on voit la vie de mon frère. Quand je vois la vie qu'il a menée, je me dis pourquoi eux, ils vont reconnaître un crime, quoi. Évidemment, il va falloir se battre. Pour le moment, la juge, c'est genre, elle veut faire son travail.
Mais si on lui met pas, si on lui met pas la pression, elle va le faire comme on lui demande de le faire, quoi.
Bon, je pense. De toute façon, c'est sûr. La vérité, c'est ça, les tribunaux. Même au niveau de l'avocat, on n'a pas voulu prendre un avocat du secteur. Puisque depuis toute petite, franchement, enfin, depuis toujours, on a traîné dans les tribunaux et on sait très bien comment ça s'y passe.
Que, en gros, souvent, les avocats sont très très copains avec les juges pour parler clairement.
Bon, je pense que les avocats, certains médias mangent ensemble le midi, évidemment.
Ben oui. Et donc, ça veut dire que là, pour l'instant, en fait, il y a une enquête qui est en cours, mais il n'y a pas de mise en examen encore qui a été prononcée contre les gendarmes.
Ah non, non, pas de mise en examen, ils exercent toujours.
Ils ne sont pas suspendus?
Non, ils ont été en garde à vue. En garde à vue, j'aurais bien voulu faire leur garde à vue, mais bon. Du vendredi jusqu'au samedi matin. Et après, ils ont été relâchés, puisqu'ils disent que c'est légitime défense. Mon frère aurait fait de la forte résistance, tandis que mes parents n'ont pas entendu un bruit.
Et j'ai lu aussi quelque part qu'en fait, vous aviez eu absolument aucun soutien psychologique, en fait, après ça. On ne vous a rien proposé
rien,
du tout.
Je me suis déplacée au tribunal, justement, parce que je me dis ça à vous, de nous donner quelque chose. Et en fait, non, il n'y a rien. On n'est même pas considéré. Moi, je n'étais pas là ce jour-là. Mais ma famille, ce qui met hors de moi, c'est que ma famille n'est même pas considérée comme victime. Même au moment qu'ils ont tué mon frère, ils ont fait mettre toute ma famille à la lignée, en fait, avec une mitraillette. Il fallait qu'ils restent debout, toujours menottés. Et pendant que les femmes leur donnaient à boire, en fait. Et eux, il fallait qu'ils restent à la lignée, debout, mitraillette. C'est pas déjà. Enfin, ils n'ont pas à agir comme ça.
Bah, c'est monstrueux.
Bah, un manque de respect, c'est l'horreur. Mon père n'a pas connu la guerre, mais il a dit on s'aurait cru en Allemagne. Vraiment, ça a rappelé des trucs qu'on n'a pas connus, des images qu'on a. Vraiment, c'est l'horreur. En fait, ils étaient au-dessus de tout. Ça a été des moqueries aussi. Tout le long, ça a été sur ma famille fermée là. Au moment où ils ont passé le portail, au moment où ils sont partis, après avoir tué mon frère, c'est que ma famille la ferme. On ne sait même pas ce jour-là que c'était des forces de l'ordre. Quand ils ont vu arriver, ils ont pensé que c'était des assassins, en fait. C'est comme ça que ça a fini.
Et puis en plus, voilà, comme tu dis, en fait, si toi tu te lèves pas, si vous décidez pas de vous lever, s'il n'y a pas du monde qui se met avec vous, en fait, ce truc, c'était prévu pour que ce soit enterré aussi sec, en fait, c'était prévu pour que, voilà, ils l'ont tué, et puis ils s'en vont, et puis il ne se passe rien, en fait.
Bah non, il ne se passe rien, puisque en plus, dans les journaux, ça a été tout de suite un gitan en cavale.
Ouais.
C'est pour dire dans la tête de la population, c'est un gitan, c'est pas grave. En cavale, en plus, il était délinquant. Enfin, en fait, ils ont criminalisé mon frère, mais bien à leur façon.
Et puis ça, c'est un truc qu'on retrouve hélas dans toutes les histoires, c'est qu'ils font toujours passer la victime pour le coupable, au final.
Ouais.
Et ils essayent toujours de salir sa mémoire et de salir ses proches et de raconter que soit il était drogué, soit qu'il était violent. Ils trouvent toujours des bonnes raisons, en fait, pour justifier qu'ils ont appliqué la peine de mort.
Et oui, dans toutes les. Enfin, j'ai rencontré pas mal de familles victimes depuis. Et en fait, on vit la même chose. Les façons d'agir sont toujours les mêmes. Mon frère, il a pris 7 balles dans le corps quand il est tombé. Ils l'ont menotté. C'est du non-respect à. Enfin, vraiment, c'est aucun respect. Il menote mon frère après toute la prison qu'il a fait. Il n'est pas rentré de permission. Il vient, il tue et il menote. C'est condamné jusqu'au bout, en fait. Mmh. Et j'ai rencontré des autres familles victimes à qui ça arrivait qu'après la mort, bah Adama aussi, c'est toujours apparemment menotté.
Et puis il y a l'autre truc aussi, c'est le racisme, effectivement. C'est-à-dire que ça touche toujours un peu les mêmes. Et vous, en fait, on pourrait croire comme ça, vu de loin, que vous êtes mieux intégré ou plus accepté parce que plus blanc, peut-être, mais en fait, pas du tout. Et vous êtes exactement dans le même cas de figure.
J'ai été choquée au départ, enfin choquée, ça m'a interpellée la réaction des gens en disant « Vous aussi, les gitans ?» Mais moi, il y a 30 ans, le cousin de mon père se faisait tuer d'une balle dans la tête aussi, à Blois. On a toujours vécu sans trop en parler. Je me dis maintenant, il faut stopper, il faut que ça stoppe dans toutes les communautés discriminées, parce qu'on est tous pareils en fait.
Et c'est pour ça que c'est très important de le dire. Il ne faut pas croire du tout qu'il y a des gens qui souffrent moins du racisme que d'autres, en fait. Le racisme d'État, parce que là vraiment c'est le racisme d'État, puisque c'est la police qui exécute des gens, et il s'applique effectivement à toutes les communautés.
Oui, ça de toute façon, il faut dénoncer, il faut se mobiliser ensemble, même si il arrive que des fois on n'est pas beaucoup, qu'on a des pertes de morale, il faut le faire, pour éviter justement que d'autres familles se retrouvent à notre place. Parce que je me dis, nous, voilà, maintenant on a les réseaux sociaux, heureusement. Mais combien de familles doivent vivre comme ça, en fait, étouffées? Combien de familles n'ont jamais eu l'occasion de donner la parole? Que la justice ne dit pas que ça constitue partie civile. Donc du coup, je pense qu'il y a pas mal de familles qui ne se sont pas levées à cause de ça, en fait.
Bah et puis en plus, on parlait de prison, et on parle beaucoup de violences policières en ce moment, mais on sait qu'en prison, hélas, c'est pareil, et qu'en fait, il y a un suicide tous les 3 jours en prison, mais on sait très bien, pour ceux qui connaissent un peu la prison, qu'il y a certains suicides qui sont pas clairs du tout, quoi. Donc en fait, il y a des morts en prison aussi, qui sont sans doute des assassinats.
Je pense, oui, la pression psychologique, rien que des fois, en allant au parloir, quoi, les gens, on voit la mentalité des surveillants, en fait.
Si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas. De toute façon, cette antenne, elle est à toi. Mais je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses, en tout cas.
Ouais.
Bien rappeler que, voilà, si on veut vous soutenir, il y a donc cette page Facebook. Alors, c'est Justice pour Angelo, c'est ça?
Oui, la page Facebook Justice pour Angelo. On a une cagnotte Litchi.
Pour vous aider dans les frais de justice et pour organiser des événements.
Voilà. Oui, les frais de justice, les événements. Et on a aussi une pétition sur la page. Une pétition à signer.
Et d'ailleurs, en parlant d'événements, vous avez prévu d'autres marches? Vous avez prévu d'autres actions?
Non, pour le moment, on n'a rien prévu.
Vous attendez d'être entendu?
On va attendre justement d'être entendu, oui. Enfin, surtout ma famille témoin, qui est le plus important.
Moi, il me reste à te souhaiter beaucoup de force. On est avec vous de toutes les manières. N'hésite pas à nous contacter, que ce soit l'Envolée ou que ce soit la radio, pour qu'on vous file des coups de main. Dès que vous voulez dire quelque chose, annoncer quelque chose, on est là pour ça, de toute manière.
Ouais.
Et puis, salut ta famille pour nous. Et beaucoup de force à vous, vraiment.
Merci à vous de faire ce que vous faites.
Oh, nous, on fait pas grand-chose, tu sais.
Nous,
on relaie, c'est tout.
C'est quand même bien, parce que c'est rare. Bon, moi, je te remercie.
C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup pour ton temps. Et voilà, salut tout le monde, beaucoup de force. Salut.
Salut.
Pendant que la terre tourne et que le Très-Haut nous contemple tous. Squatter les dépôts pour les mêmes causes immobiles. Menottes argentées sur peau d'or. Que la Bagdad sans pudeur. Inégalité pour mot d'ordre. S'il y a rien dessus, je perds mon temps à me dire que je filerai bien par leur tirer dessus. Mater les murs de Boulogne et d'ici. Voir le matin remplacer l'aube et ainsi de suite. Je perds mon temps à écouter que ça insiste. Lunatique, dans la violence incite. Trop de jeunes s'en battent que le monde leur appartient. Continue de ronfler quand le soleil atteint le zénith. Vrai, chaque minute est précieuse, on en dépense à trop rêver. Combat sans trêve pour accéder à ce qui nous est permis. Des heures endormies sur des feuilles blanches. Mais lunatique, à tout moment se déclenche. Ton freestyle avalanche.
Des instants gâchés à perdre ses illusions. Du sang et des proches, sa raison et puis le contrôle. Je perds mon temps comme un assassin en cavale vivant caché. Comme un innocent en tôle. Comme un dealer à qui personne n'a acheté. Comme un gars dans un hôtel sale qui parle d'amour à un tabac, une vie pour sa gueule. Je perds mon temps comme ceux qui attendent la paix au Moyen-Orient. Salam et shalom, la même, mais prononcé en décalage. Ça devient Uzi opposé à Kalash. Israël. Donne respect à ton aîné Ismaïl.
Les menottes me serrent et les minutes me tuent. Je vois trop de thunes alors je me sers. On parle peu, j'ai l'air troublé devant leur toubi. Mais le silence n'est pas un oubli. J'inspire le temps, les yeux plissés. Je rappe et je dérape souvent, tant pis si le sang doit pisser. Le style bête, c'est bête et méchant. Trop de temps à lutter, à essayer d'être riche en triche. J'ai mon temps loin des miens, déchiré au sang, vrindien. Taxi que si je paye avec mes Air Maxé. J'ai le frère quand je mens, pourtant je dis bismillah quand je mange. Vu que je te dise franchement, j'ai un ange à chaque épaule, mais sud gauche parle trop fort. Écoutez le droit, ce que je suis censé faire. Mon temps avec des petites snakes, noyer les chèques dans du sky sec. À goûter les variétés de shit, rien que du mauvais. S'ils savaient ce que j'avais, s'ils pouvaient me dire quelle maladie j'ai. C'est dans mes gènes ou quoi? Je crois que je cherche, tu rêves ou quoi? Je perds mon temps jusqu'à ce que je perde mon teint. Je perds mon temps sans métier, tête baissée à regarder mes pieds. Arrive expès et à regretter. Je nique mon temps dans le vice, je veux pas finir dans le feu. J'ai du mal, ce que je t'explique dans le disque. Je perds mon temps à acheter, à vendre, emprunter, à rendre. Rien à prendre sauf que les ports sont à pente. Le monde fait flipper, mec, tu sais plus rien matin. Et plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien. Je perds mon temps, attendant que le monde s'ouvre. Et je nique tout car tout le monde souffre. Mon temps à chercher de la maille, il m'en faut. J'en perds mon temps, mon sang et mon flow. V2OB, A, RO, trop haut. Et je perds mon temps depuis le préau. Les menottes me serrent et les minutes me tuent. Je vois trop de thunes alors je me sers. On parle peu, j'ai l'air troublé devant leur toubi. Mais le silence n'est pas un oubli. J'inspire le temps, les yeux plissés. Je rappe et je dérape souvent, tant pis si le sang doit pisser. Le style bête, c'est bête et méchant. Trop de temps à lutter, à essayer d'être riche en trichant.
Je perds mon temps dans quoi que ce soit, pour quoi que ce soit. Et je vois que c'est la maille et les tasses, la caille par la police vexée. Tout dans le même rentre dedans, tire dedans. Attends, lui casse dedans, bref, la même. Je perds mon temps et j'ai autre chose à faire. Comme batailler pour taille, tant qu'à faire. Avancer dans le sens inverse de l'enfer. Frère, même si à mon service il manque de maille, pour l'instant je braille. Je perds mon temps. Vois que c'est les frères, les mêmes têtes qui dans la merde s'enfoncent tout le temps. Je me dis, faut que je tue le temps, mais c'est le temps qui me tue. J'ai pas l'affaire, j'ai la foi convaincue. Brave de cœur, je perds mon temps. Pour des gars qu'on peur de vaincre, fait couler l'encre. Vie d'ambition, mettrait du goudron sur la terre de mes pères, mes ancêtres. Je sais que dans ce pays, ils pensent être au-dessus de nous. On met leurs femmes sans dessous, au-dessus. Perds mon temps, devant la lettre A de mon bâtiment. Démonte les joints de Hiya, accélère le châtiment. Et c'est l'imprapta du soir qui revient me tord chez moi. En dessous du porche chez moi. Mais attention, y'a tension quand y'a un porche chez moi. Je perds mon temps, faut que je le rattrape, cette vie me trompe. Quand avec elle tes partenaires, on a l'au-delà pour nous maintenir. Donc peu importe que tu t'emportes, ici on n'a rien à perdre, préviens ta troupe.
Les menottes me serrent et les minutes me tuent. Je vois trop de thunes alors je me sers. On parle peu, j'ai l'air troublé devant leur toubi. Mais le silence n'est pas un oubli. J'inspire le temps, les yeux plissés. Je rappe et je dérape souvent, tant pis si le sang doit pisser. Le style bête, c'est bête et méchant. Trop de temps à lutter, à essayer d'être riche en trichant.